Écho d'ici, écho d'ailleurs. Jean-Pierre Bouris.
Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Écho d'ici, Écho d'ailleurs, l'émission qui démonte les rouages de l'économie mondiale. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à quelqu'un qui essaie aussi de démonter les rouages de cette économie, mais au sens premier du terme, c'est-à-dire de mettre l'économie mondiale en pièces, de la désosser comme on désosserait une voiture. Ce quelqu'un qui essaye de désosser cette économie mondiale, c'est Donald Trump, le président américain, a par exemple annoncé pendant sa campagne électorale qu'il abrogerait le traité de libre-échange nord-atlantique et il le répète depuis son élection en mettant toutefois un peu d'eau dans son vin.
L'ALENA est un accord horrible pour les États-Unis, il est très bon pour le Canada et pour le Mexique et pendant la campagne j'ai dit nous allons en sortir ou le renégocier. Ils m'ont demandé de renégocier, j'ai accepté mais il faut que ce soit bon pour les États-Unis.
Ce traité tripartite, il unit le Canada, les États-Unis et le Mexique, est aujourd'hui vieux de 23 ans. Il a été signé en 1994 à l'époque où Bill Clinton était président des États-Unis. Écoutez ce qu'en disait, après la ratification par la Chambre des représentants, le correspondant de RFI dans la capitale américaine, Pierre Kérol.
C'est une superbe victoire politique qu'a rapporté Bill Clinton, au-delà même de ce qu'il espérait. Grâce à ce traité, le plus formidable marché du monde va pouvoir naître, avec 370 millions de consommateurs, beaucoup plus que le marché européen.
Alors, entre 1994 et 2017, quel changement a provoqué cet accord de libre-échange? Quelle mutation a-t-il provoqué dans les économies de ces trois pays? Qu'est-ce qui explique la volonté d'abrogation du président américain? Et si l'événement venait à se produire, quelle serait la situation pour les trois pays? De quoi parle-t-on aujourd'hui? Voilà ce que nous allons évoquer avec les deux invités que je vous présente maintenant. Bonjour Sébastien Jean.
Bonjour.
Sébastien Jean, vous êtes directeur de recherche à l'INRA, l'Institut National de la Recherche Agronomique. Vous êtes aussi le directeur du CEPI, le Centre d'études prospectives et d'informations internationales, un des grands centres de recherche économique français. Dans la synthèse annuelle que publie le CEPI, intitulée « L'économie mondiale 2018 », à la découverte, vous signez un chapitre intitulé « La démondialisation n'aura pas lieu ». Ce qui se passe autour de l'ALENA faisait-il partie de votre raisonnement quand vous avez écrit ce chapitre l'été dernier, je pense ?
Oui, ça en fait partie dans le sens où ce raisonnement, c'était une tentative d'analyser ce que signifie la rupture qu'on a constatée dans ce processus de mondialisation depuis la crise économique et financière 2008-2009. Et ça a été une rupture dans le sens où les relations internationales ont ralenti, voire diminué d'intensité dans certains cas. Pour le commerce, elles ont ralenti. Pour la finance, elles ont diminué. Et ça a modifié beaucoup de choses, et notamment la façon dont on voit l'ouverture. Et l'ALENA, en est une belle illustration.
Mais laissez-moi vous présenter notre autre invité avec nous également dans ce studio. Du Rodolphe Desbordes, bonjour.
Bonjour Jean-Pierre Bouris.
Rodolphe Desbordes, après avoir longtemps enseigné à Glasgow, en Écosse, vous êtes maintenant professeur d'économie à la Schema Business School, sur le campus de La Défense, tout près d'Issy-les-Moulineaux où sont les studios de RFI. Est-ce que vos étudiants s'intéressent à ces enjeux macroéconomiques que nous allons évoquer, ou ne sont-ils motivés que par l'art et la manière de faire des affaires?
En fait, ils sont passionnés par cela. Car les étudiants n'ont connu jusqu'à présent que la mondialisation croissante. Et en fait, ils se rendent compte qu'elle peut être détricotée, qu'en fait, on peut rompre cette espèce de marche inexorable des flux commerciaux. Donc, ils sont passionnés par cela. Et notamment, ils ont un grand cours d'enjeux là-dessus.
Alors, dans cette émission des reportages, bien sûr, nous rejoindrons Anne Corpé à Washington, Pascal Guéricola à Montréal et Patrick John Buff à Mexico et aussi quelques archives. Un point d'actualité d'abord. Depuis l'arrivée de Donald Trump au pouvoir, on en est au cinquième round de négociation de l'accord ALENA, NAFTA. NAFTA, c'est en anglais. La dernière réunion a eu lieu au début de la semaine à Mexico et elle s'est mal passée. Pourquoi est-ce qu'on négocie si Donald Trump voulait abroger ce traité, Sébastien Jean ?
C'est une technique de négociateur d'immeubles, hein, d'immobilier, ou plus exactement de joueur de poker, les déclarations de Donald Trump. Je vais tout casser. Ça veut dire j'essaie de vous mettre la pression maximale. Moi, écoutez, hein, j'en ai rien à cirer. Vous avez remarqué que dans l'extrait que vous avez passé tout à l'heure, il a dit ils m'ont demandé de renégocier. Enfin bon, c'est grotesque comme présentation. Donc c'est vraiment une façon d'essayer de poser un rapport de force. Voilà. Moi, je suis prêt à tout rompre. Donc si vous voulez qu'on renégocie, c'est à vous de faire les concessions, toutes les concessions, pour rééquilibrer cet accord. C'est vraiment le message qu'il veut faire passer. Bon, et c'est source de toutes les tensions qu'on va avoir à commencer.
Rodolphe Desbordes, c'est aussi votre point de vue, c'est juste une stratégie, une technique de discussion qu'il instaure ?
Oui, c'est une stratégie de discussion, mais également, il faut penser aux forces derrière Donald Trump. Par exemple, les grandes entreprises, souvent, ils revendiquent la défense de l'emploi, et ces grandes entreprises rappellent que, grâce à l'ENA, souvent, il y a l'emploi qui est créé.
Alors, on parlera de ça tout au long de la deuxième partie de l'émission, mais l'une des raisons de Donald Trump, en tout cas officiellement, pour vouloir casser la baraque de cet accord, c'est la prise en compte de la situation des ouvriers de ce qu'on appelle la Rust Belt, la ceinture de la rouille aux États-Unis, c'est-à-dire la partie du pays où se trouvent les grandes industries métallurgiques et autres. Écoutez cet extrait d'un grand reportage de Sylvie Noël, diffusé le 19 janvier dernier sur les antennes de RFI.
I am Bob Gerges. I'll be 50 in May. Excuse me.
On entend l'émotion dans la voix de Bart Gerges, grand, baraqué, casquette vissée sur la tête, mais réticent à parler de lui. Il aura 50 ans en mai prochain et depuis 3 mois, il sait qu'il va perdre son emploi en juin prochain. Son entreprise, Rexnord Corporation, a annoncé qu'elle allait licencier 400 personnes.
I've been there 4.5 years.
Je travaille là depuis 4 ans et demi, dans la salle de contrôle. C'est un travail bien payé. Ils vont transférer l'usine à Mexico pour économiser 15 millions de dollars. Alors que notre seule usine d'Indianapolis, en moyenne, réalise, d'après ce que l'on m'a dit, des bénéfices à hauteur de 50 à 55 millions de dollars par an. Vous savez, on produit les meilleurs roulements à billes. Nous pensions que le sens commun allait s'imposer et qu'ils allaient comprendre que pour avoir les meilleurs roulements à billes, vous devez bien payer vos salariés. Et regardez, vous faites des profits, vous ne perdez pas d'argent. Mais non, ce n'est pas assez. La cupidité des sociétés, c'est de la folie.
C'est juste straight up corporate greed. And, you know, it's just crazy.
En quelques mois, Rexnord a été la 3e usine d'Indianapolis à annoncer une fermeture. Nouvelle destination, Monterrey, où les salariés sont payés 3 dollars de l'heure contre 24 ici.
Un extrait du grand reportage de Sylvie Noël diffusé au début de l'année sur les antennes de RFI. Sébastien Jean, ce que dit cet ouvrier, on a l'impression de l'avoir entendu beaucoup de fois, mais pourquoi est-ce que ça affecte particulièrement les États-Unis ? On pensait que c'était eux qui venaient, par exemple, délocaliser des emplois en Europe ou en France et fermer des usines françaises pour les réinstaller ailleurs, ou que c'était des entrepreneurs français qui délocalisaient vers les pays de l'Est. Là, qu'est-ce qui se passe ?
On le pensait, et ce qui est intéressant, c'est que eux le pensaient aussi. C'est-à-dire que les États-Unis, notamment au moment de la signature de l'ALENA, étaient persuadés que ça donnerait lieu à une formidable croissance de leurs exportations et même de leur surplus commercial avec leurs partenaires. Ils avaient un surplus commercial quand on sur les biens hors pétrole, hein, avant l'ALENA. Et donc, au fond, ils considéraient, et ça a été souvent le cas d'ailleurs des États-Unis depuis quelques décennies, que de toute façon, ils sont meilleurs. Donc, s'il y a plus de concurrence, ça va leur profiter. Et effectivement, si on regarde les soldes nets, c'est pas ce qui s'est passé. Donc,
quelles étaient les relations commerciales entre les États-Unis, le Mexique, le Canada avant l'accord de 1980 ?
Elles étaient déjà bon. Alors, c'est vraiment deux points différents, parce que États-Unis-Canada, États-Unis-Mexique, parce que évidemment, le Canada est vraiment, on a de frontières qu'avec les États-Unis, et c'est un pays riche. Il y a des échanges intenses, d'ailleurs avec des polémiques aussi intenses depuis longtemps. Et puis il y a eu l'accord de libre-échange entre le Canada et les États-Unis qui avait été signé en 88 et mis en œuvre en 89. Donc il y avait déjà un cadre là-dessus. Et puis avec le Mexique, eh bien il y avait un programme de ce qu'on appelait maquiladoras, hein, donc ces usines de perfectionnement pour réexportation à la frontière mexicaine. Ça a été développé dans les les années 60, ça a pas mal cru ensuite. Et donc, il y avait déjà un peu ce commerce-là qui essayait de tirer profit de la main-d'œuvre à bas coût au Mexique pour ensuite réexporter vers les États-Unis. Il y avait pas mal de commerce entre les deux. Il y avait aussi des inquiétudes très fortes sur, d'une part, enfin, essentiellement sur les flux migratoires. C'était aussi une réponse à ça, c'est-à-dire si on veut essayer de freiner à terme, de maîtriser ces flux, il faut aider au développement du Mexique. Et puis, enfin, bon, il y avait beaucoup de choses.
Donc ça, c'est l'idée qui a inspiré les maquiladoras.
C'est l'idée qui était dans l'agenda aussi de dans les motivations politiques de l'ALENA pour le créer au départ.
Rodolphe Desbordes, qu'est-ce qui a inspiré les créateurs de l'ALENA? Puisque Sébastien Jean vient de nous dire il y avait le Canada et les États-Unis qui avaient déjà un accord commercial bilatéral, en quelque sorte. Pourquoi fallait-il faire un bloc tripartite comme ça?
Alors, plusieurs points. Le premier point, c'est les Américains et les Canadiens voyaient la montée du marché européen, un peu cette forteresse européenne. Et c'est une réponse, en quelque sorte, à la création du grand marché européen. C'était devenir plus compétitif, accroître la production. Ça, c'est la première chose. Seconde chose, c'est qu'il faut se rappeler que le Mexique, c'est un pays en développement. Et c'est un pays qui a été fortement instable avec relativement de mauvaises relations avec les États-Unis. Ils ont été en guerre, il y a eu des annexations de territoires. Donc c'est une façon également de stabiliser le Mexique et, comme a dit Sébastien, également de freiner peut-être des courants migratoires en aidant à son développement. Ensuite, concernant les emplois, les problèmes d'emploi, il était perçu que peut-être ça pourrait entraîner des millions et des millions de pertes d'emplois. Hein. C'était un peu l'aspiration de Ross Perot, tous ses emplois qui allaient partir.
Candidat républicain à la présidence.
Exactement.
Indépendant,
puisque l'ALENA a été négocié au départ par George Bush père. Hein. Et les républicains à l'époque étaient quand même plutôt libre-échangistes. Mais enfin, Bill Clinton avait répondu, c'est pas vrai, ça nous permet d'accroître en fin de compte notre compétitivité internationale et de démultiplier les emplois. On s'est rendu compte qu'en net, ça n'a pas vraiment créé d'emplois, mais il est très important toujours de dire que le commerce crée certes des biens, un avantage positif global, mais il y a toujours des gagnants et des perdants. On le voit aux États-Unis, on le voit également dans les pays en développement qui s'ouvrent, toujours des gagnants et des perdants.
Alors les perdants, au Mexique, on va en rencontrer quelques-uns, puisque en 2008, par exemple, le RFI diffusait ce reportage du correspondant de la grande radio mondiale dans la capitale mexicaine, Patrice Gouy. Écoutez la colère des paysans mexicains face à l'ALENA.
Des vaches sous le monument à la Révolution, des paysans à cheval ou sur leur tracteur, le monde paysan a démontré qu'il pouvait se mobiliser et bloquer toute la ville de Mexico. Ils accusent le gouvernement de ne pas avoir mis en place une politique de modernisation du monde rural pour affronter les fermiers américains aux produits fortement subventionnés. À l'heure des discours, Cruz López Aguilar, le président de la CNC, la Confédération Nationale des Paysans, a exigé devant 150 000 personnes l'immédiate renégociation du chapitre agricole de l'ALENA, l'accord de libre-échange nord-américain.
Nous avons perdu le cap de notre pays. Depuis la signature de l'ALENA, nous n'avons plus de souveraineté alimentaire. Notre dépendance en nourriture est passée en 14 ans de 10 à 48%. Cette politique abominable, suivie par le gouvernement, doit être qualifiée de trahison à la patrie.
Cette mobilisation paysanne est une déclaration de guerre au gouvernement mexicain. Le ministre de l'Agriculture a déclaré succinctement qu'il n'était pas question de renégocier l'ALENA, mais il a néanmoins laissé une porte entrouverte pour d'éventuelles négociations.
Patrice Gouy, Mexico, RFI, un reportage qui date donc de 2008. À l'origine, qu'est-ce qu'il y avait dans cet accord qui peut susciter tant la colère des ouvriers américains que des agriculteurs mexicains, Sébastien Jean?
C'est un point spécifique, mais très important. Donc, commençons effectivement par le volet agricole. Et c'est un volet qui est très commenté dans le cadre de l'ALENA. Pourquoi? Parce qu'il y a une libéralisation effectivement forte du massif du secteur agricole. Il faut savoir que le Mexique se protégeait avec des droits de douane d'environ 30% auparavant. Et le Mexique, c'était une agriculture largement composée de petits exploitants. En face, les États-Unis, une agriculture très moderne et très fortement subventionnée. Si je veux être simple, je dirais d'une certaine façon, les Mexicains se sont fait avoir. Et je trouve qu'il y a une grande part de vérité dans ce que disent les responsables mexicains là. C'est-à-dire que il y a eu une faute politique de la part du Mexique d'ouvrir un secteur pauvre traditionnelle comme ça à la concurrence des États-Unis qui en outre était très fortement subventionnée. Donc ils ont préparé le terrain pour ce qui s'est passé ensuite, c'est-à-dire ça a paupérisé massivement les petits agriculteurs mexicains. Donc souvent ils ont été remplacés, il y a eu un exode rural accéléré, ils ont été remplacés par des grandes entreprises exportatrices. Donc la question n'est même pas la quantité de maïs exporté par le Mexique, c'est plutôt une question de gérer le changement structurel d'un pays. Et là, il y a eu, je pense, des politiques qui ont été malmenées, des pressions, effectivement, des lobbies américains, et un combat qui était inégal. Donc, c'est qu'une petite partie de l'ANA, mais c'est évidemment une partie très importante en relation en particulier avec ce qu'on vient d'entendre.
Rodolphe Desbordes, à part la question agricole, qu'est-ce qu'il y avait dans cet accord signé en 1994?
Or, c'était un accord, on va dire, de seconde génération, très très moderne. Pourquoi? Parce que non seulement il couvrait la libéralisation du commerce des biens, mais également la libéralisation du commerce des services, la protection des droits de propriété intellectuelle, l'ouverture, en fin de compte, aux firmes du Canada, du Mexique, des États-Unis. Et également, il y avait ces fameux tribunaux, plusieurs tribunaux, en fait. Hein. Il y a 6 procédures de résolution dans l'ALENA, le chapitre 11, où c'est une firme qui peut attaquer un État, le chapitre 19, où c'est 2 États qui peuvent s'entendre sur les mesures compensatoires, par exemple les droits anti-dumping, le chapitre 20 d'État à État, et d'autres chapitres que je n'ai pas abordés. Mais également, il y a eu deux annexes négociées par Bill Clinton sur la protection des droits des travailleurs, mais également de l'environnement. Donc c'est un accord très très moderne et très riche.
Et cet article 11 qui prévoit les tribunaux d'arbitrage,
c'est ça.
Il est au cœur en ce moment des discussions, n'est-ce pas?
Il a toujours été au cœur des discussions en quelque sorte, parce qu'en fin de compte, on ne retrouve pas ça dans le droit, on va dire, national. C'est impossible pour une firme étrangère d'attaquer directement un État. Mais grâce à les tribunaux, on peut le faire. Et maintenant, c'est quelque chose qu'on retrouve dans des milliers d'accords, en fait. Et on s'est rendu compte que parfois, soit ça pouvait ralentir un petit peu la prise de réglementation, par exemple au niveau environnemental, parce qu'ils étaient en peur d'être attaqués, soit ça menait des choses un peu incongrues, par exemple un grand vendeur de tabac qui attaque un État parce que l'État veut freiner la consommation de tabac, par exemple.
Sébastien Jean, cet accord à l'ENA, il était précurseur de ce qui s'est fait plus tard?
Il a changé profondément la façon dont on négocie, dont on pratique les accords commerciaux à plusieurs égards, l'ALENA. Et d'ailleurs, au moment de la signature, parmi les motivations, c'est très discuté parce que c'est difficile à déterminer, mais on a beaucoup dit que c'était aussi un instrument utilisé par les Américains pour essayer de forcer la conclusion des négociations du cycle d'Uruguay, du GATT, qui a donné naissance à l'OMC. En quoi il a été novateur? Essentiellement parce que il a été beaucoup plus contraignant, avec en particulier ces procédures de règlement des différends dont vient de parler Rodolphe Desbordes. Il a été beaucoup plus contraignant que ce qu'étaient les accords précédents. Par exemple, sur ce chapitre 11, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'ISDS, souvent dans le débat en France, ou tribunal d'investissement, ça existait depuis longtemps. Le premier traité bilatéral d'investissement entre l'Allemagne et le Pakistan, il date de 1959.
C'est-à-dire un traité où les entreprises peuvent attaquer l'État.
Ou un traité qui sert notamment à essayer d'obtenir des garanties pour les investisseurs que s'ils sont expropriés, ils obtiendront une compensation. Simplement, la façon dont les Européens l'ont fait au départ, parce que c'est surtout eux qui le pratiquaient au début, c'était un peu dans un contexte de décolonisation, c'était assez peu contraignant. Et les États-Unis, avec l'ALENA, ont renouvelé profondément ce cadre parce qu'ils ont posé des dispositions qui permettaient de l'utiliser de façon contraignante, même si les États n'étaient pas d'accord entre eux. En gros, avant, un État qui n'était pas d'accord pouvait s'opposer à une procédure de règlement différente. Après l'ALENA, ce n'était plus possible. Et qui plus est, les exemptions pour des politiques environnementales, enfin à des buts non commerciaux, étaient assez peu prises en compte dans l'ALENA. Donc c'est vrai pour l'investissement, chapitre 11. Et effectivement, il y avait deux autres dispositions importantes, une qui restait sans guère d'influence parce que finalement elle a été remplacée, enfin l'OMC a fait le travail sur c'est ce qu'on appelle le chapitre 20, et puis celle du chapitre 19 qui est très intéressante parce que c'est une façon de donner la tutelle un peu, enfin la possibilité de recours par l'intermédiaire de l'ALENA sur les procédures d'anti-dumping et de mesures compensatoires au sein des États-Unis, et ça c'est très important dans le droit commercial, c'est un outil de lobbying et de protection par les entreprises qui est très utilisée, en particulier aux États-Unis.
On détaillera ça dans la deuxième partie de cette émission. Sébastien Jean, Rodolphe Desbordes, on se retrouve dans quelques minutes après un flash d'actualité. A tout de suite dans Éco d'ici, Éco d'ailleurs.
Écho d'ici, écho d'ailleurs, sur RFI. Écho d'ici, écho d'ailleurs, Jean-Pierre Boris.
Bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent pour cette deuxième partie d'Écho d'ici, Écho d'ailleurs, l'émission qui démonte les rouages de l'économie mondiale. Aujourd'hui, nous parlons de la volonté de Donald Trump de renégocier, voire d'abroger le traité de libre-échange de l'Atlantique Nord, en français ALENA, en anglais NAFTA, et des conséquences pour les trois pays impliqués, le Canada, les États-Unis, bien sûr, et le Mexique. Deux invités dans ce studio pour en parler, Sébastien Jean, directeur du CPI, Rodolphe Desbordes, professeur d'économie à Schema Business School. Au cours de la première partie de l'émission, nous avons vu que Donald Trump voulait rayer cet accord d'un trait de plume parce qu'il avait nui à un grand nombre d'ouvriers américains laissés sans travail par l'ouverture des frontières. Il avait raison, Sébastien Jean ?
C'est un sujet très polémique. Je dirais que c'est comme pour les délocalisations en France. Il y a l'analyse économique froide et ensuite il y a l'analyse politique. Quand on fait l'analyse économique froide, il y a le problème agricole dont on a parlé tout à l'heure, qui a été quelque chose d'assez spécifique. Et ensuite, cet accord, il a été mis en œuvre dans un contexte de désindustrialisation des États-Unis, et il est difficile d'évaluer quelle part l'accord a pris. Donc, il y a des chiffres ou des chiffrages souvent assez fantaisistes qui circulent. Ce qui est sûr, c'est que ça a été partie d'une évolution dans laquelle, en même temps, les États-Unis, donc sur les hors pétrole, étaient légèrement excédentaires juste avant l'accord, et maintenant sont nettement déficitaires. Il y a un déficit de 60 milliards de dollars avec le Mexique, une dizaine avec le Canada. Donc, est-ce que ça a fait perdre des emplois industriels au total? Ça dépend des estimations, mais ça en a probablement fait perdre, lié au fait qu'il y a un déficit bilatéral, même si en fait c'est délicat, c'est difficile à mesurer aussi. Il y a des relations avec les pays tiers, il est sans doute moins important que ce qu'on voit à partir des chiffres bruts, disons. Mais tout montre que c'est une très petite contribution par rapport à l'évolution générale.
C'est-à-dire que l'ALENA a très peu pesé dans la destruction des emplois industriels et ouvriers aux États-Unis.
Oui, les estimations, par exemple, du Peterson Institute disaient, un institut influent et compétent sur ces questions aux États-Unis, disait au plus 5% des emplois détruits dans le manufacturier, ce qui est pas négligeable, mais ce qui est vraiment très minoritaire. Maintenant, j'insiste sur ce que je disais au début, c'est-à-dire il y a aussi l'aspect politique. C'est-à-dire que derrière, il y a des gens qui se sentent trahis par rapport au contrat social qu'ils estimaient être à la base de leur emploi et de leur participation à la société, en se disant, finalement, l'État, la communauté s'est procuré des gains sur notre dos. Et il y a vraiment, ça c'est la clé quand même de tout ce débat sur les délocalisations et l'impact de ce type d'accord. C'est-à-dire que même quand les conséquences sont faibles, il faut vraiment avoir des politiques volontaristes pour essayer de les contrecarrer et pour dire voilà, effectivement, il ne s'agit pas de se procurer des gains sur le dos de certains. Et s'il y en a qui doivent porter l'ajustement, il faut derrière qu'il y ait des politiques d'accompagnement. Et c'est vrai qu'aux États-Unis, elles n'ont pas été
Rodolphe Desbordes, les ouvriers américains ont été les dindons de la farce de ces dernières décennies, en partie à cause de l'ALENA ?
Non, je ne crois pas qu'ils ont été les dindons de la farce. Je crois qu'ils ont été, entre guillemets, victimes de deux choses. Pour ceux qui ont perdu leur emploi, c'est à la fois peut-être du libre-échange, mais comme a dit Sébastien Jean, très peu. Quand on regarde les chiffres, en net, c'est peut-être 15 000 par an, on n'est pas très sûr. Parce qu'évidemment, il y a ceux qui ont perdu leur emploi, ceux qui ont vu leur emploi maintenu, et ceux qui ont eu un emploi grâce aux exportations, y compris vers le Mexique. Ensuite, il y a la technologie. Et par exemple, si on prend l'Allemagne, même en Allemagne, ils ont vu la part d'emploi manufacturier et d'emploi total divisée par deux, donc même une nation très puissante. Ensuite, il faut tenir compte du fait qu'évidemment, quand on est exposé à l'ouverture commerciale et qu'on est un secteur qui était protégé ou un secteur peu compétitif, c'est certain, on perd son emploi, on a du mal à retrouver un autre, et la communauté autour aussi est affectée. Donc souvent, il y a des pertes négligeables au niveau national du pays, mais très fortes au niveau local, au niveau de la ville, par exemple. Et finalement, quand on regarde un petit peu ce qui se passe avec les firmes multinationales américaines, celles qui ont eu tendance à avoir plus d'emplois au Mexique, et maintenant, il y a environ 1,6 million de Mexicains employés par la firme multinationale américaine, ils ont tendance à créer plus d'emplois aux États-Unis, avec cette idée que ça permet en fin de compte de maintenir, consolider leur compétitivité.
Alors Donald Trump était avant tout préoccupé par l'industrie manufacturière. Il a oublié que l'accord de libre-échange, l'ALENA, avait dopé la filière agricole américaine et changé aussi le contenu de l'assiette des consommateurs américains, plutôt en bien. À Washington, c'est un reportage Écho d'ici, Écho d'ailleurs, signé Anne Corpet.
Le rayon fruits et légumes situé juste devant les caisses de ce supermarché de Washington déborde d'avocats, de fruits rouges, de petits poivrons, de tomates, tous estampillés produits du Mexique. Depuis l'abolition des taxes douanières, les étals américains ont bien changé. Brad et Dolly remplissent leurs caddies et l'ont constaté.
Au cours des 10 ou 20 dernières années, le prix des légumes est devenu beaucoup plus abordable et ils ne sont plus saisonniers. Les saisons ne comptent plus autant.
Est-ce que vous mangiez des avocats il y a 20 ans?
Oh non!
Oh non, 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 je n'avais jamais entendu parler d'avocats jusqu'à mes 60 ans, je dirais.
Et vous avez quel âge?
81.
L'ALENA n'a pas seulement permis d'élargir le choix des consommateurs. L'agriculture américaine a dans son ensemble massivement profité de l'accord. Nous avons joint par téléphone Cassandra Kubal, chargée du commerce au sein de l'Association des raffineurs de maïs américains.
Le maïs est l'un des produits qui a énormément bénéficié de l'ALENA, mais aussi le blé ou le soja. Nous voulons un accord solide. Nous ne voulons pas quitter l'ALENA.
Ralph Fichter, président d'Euroconsultant, une société de conseil établie à Washington, est spécialisé dans l'agroalimentaire.
En avril dernier, le décret de retrait de l'ALENA était sur la table du président. Et le ministre de l'Agriculture s'est précipité chez le président avec une carte qui montrait l'impact du retrait de l'ALENA sur l'économie des États. Et comme par hasard, 98% de ces États étaient ceux qui avaient voté pour Trump. Donc, il y a eu un petit sursaut et on a renoncé à publier ce décret de retrait et on se lance dans ce qu'ils appellent une renégociation. Voilà pour la petite histoire.
Les incertitudes liées à la renégociation ont déjà poussé le Mexique à chercher de nouveaux partenaires. Cassandra Kubal.
Ils cherchent un plan B, ce qui inquiète les États-Unis. Mais oui, selon nos informations, ils ont reçu plusieurs bateaux chargés de produits argentins et brésiliens au cours des derniers mois.
Ralph Fichter, président d'Euroconsultant.
Les agriculteurs risquent de se retrouver les dindons de la farce en payant le prix soit d'une renégociation, parce que s'il y a des grosses concessions de la part du Mexique ou du Canada, il y aura forcément des contreparties, surtout sur l'agriculture. Soit c'est une sortie, et à ce moment-là, on retombe dans le droit commun de l'OMC, et les droits de douane applicables selon les accords de l'OMC pour les États-Unis seraient en moyenne de 5%, alors que le Mexique pourrait appliquer aux exportations américaines un droit agricole moyen de l'ordre de 45%. C'est pas tout à fait la même chose.
Les responsables du secteur cherchent déjà les moyens de contrer un éventuel décret présidentiel de sortie de l'ALENA avec l'appui de nombreux élus du Congrès.
Un reportage signé Anne Corpet à Washington. On a un peu l'impression, Rodolphe Desbordes, que ce sont là les agriculteurs américains contre les ouvriers américains dans cette histoire.
Non, c'est pas encore ça. Il y a toujours des gagnants et des perdants. Par exemple, l'ouvrier américain qui construit des automobiles grâce en partie à des pièces soit faites au Canada ou au Mexique est gagnant. Mais il est vrai que les agriculteurs américains exportent beaucoup vers le Mexique et sont gagnants et sont tout à fait contre perdre l'ALENA.
Sébastien Jean, il n'y a pas eu que des résultats négatifs donc pour l'économie américaine de cette ALENA.
Non, c'est vrai, c'est assez illustratif, disons, de la différence entre les États-Unis et l'Europe par rapport à la politique commerciale sur le contraste agriculture-industrie. C'est-à-dire que nous, on a l'habitude, quand on parle de négociations commerciales comme ça, de s'inquiéter sur les conséquences sur notre agriculture. Aux États-Unis, c'est tout le contraire. C'est-à-dire que derrière les offensives, entre guillemets, commerciales des États-Unis, très souvent, il y a le lobby agricole, parce que c'est un lobby agro-exportateur, et c'est un lobby qui est concentré sur ces grandes cultures dont votre reportage parler, en particulier le maïs, mais aussi on pourrait citer le soja, le blé, le coton. C'est des cultures qui sont exportées à plus de 50% la plupart du temps aux États-Unis, qui en plus sont concentrées dans certains États, qui donc sont très importants aux États-Unis. Il faut savoir que dans le jeu politique américain, le Sénat est très important, hein, et en particulier sur les questions commerciales. Pourquoi j'insiste sur le Sénat plus que sur la Chambre des représentants? Parce que le Sénat, c'est une représentation territoriale. Il y a deux sénateurs pour chaque État. Autrement dit, des petits États agricoles, comme l'Iowa, par exemple, ou l'Indiana, vont peser très très lourdement dans la balance parce que ils sont essentiels à l'équilibre politique et Donald Trump en plus a beaucoup de mal, hein, soit dit en passant, à gérer ça. Et donc eux, ils pèsent de tout leur poids pour essayer de sauvegarder les intérêts du lobby agricole. On voit que s'agissant de l'ALENA, eh bien les exportations de maïs, notamment américaines, vers le Mexique ont beaucoup augmenté. Et finalement, bon, avec ce qu'on a dit tout à l'heure sur l'ajustement au Mexique, finalement là où l'agriculture mexicaine se porte bien, arrive à exporter vers les États-Unis, c'est tous les fruits et légumes, ce que votre reportage abordait aussi. Voilà, donc c'est un rapport de force inversé par rapport à ce qu'on a en Europe, et c'est un des gros freins d'ailleurs à la politique un peu de Trump sur l'ALENA, c'est-à-dire que derrière il y a les lobbies agricoles, et notamment par l'intermédiaire du Sénat, et pas seulement, enfin de toutes sortes de façons, qui font une pression énorme sur le gouvernement en disant attention, vous êtes en train de détruire notre business d'une certaine façon, et donc on s'oppose très fortement dans l'industrie, dans une partie de l'industrie aussi, mais là c'est plus disons c'est un peu plus compliqué parce qu'il y a finalement les vieilles industries traditionnellement portées sur la protection avec notamment l'antidumping, hein, la sidérurgie par exemple. Et puis toutes celles qui se sont quand même beaucoup plus modernisées, qui ont utilisé justement l'ALENA pour répartir leur processus de production, pour beaucoup investir au Mexique, hein, parce que les conséquences commerciales de l'ALENA, en fait, c'est beaucoup une question d'investissement. Et c'est ça que les Américains, d'ailleurs, n'avaient pas prévu au début, quand ils faisaient un peu leurs calculs à partir des flux existants, de la position existante initialement, et en extrapolant. Ce qu'ils n'avaient pas prévu, c'est qu'en fait, ça ouvrirait un cadre stable et prédictible dans lequel un certain nombre d'entreprises pourraient faire un calcul différent en déplaçant une partie de leur production. Et c'est ça, au fond, qui est en question aujourd'hui. C'est ce qui a fait du Mexique aujourd'hui le quatrième exportateur net d'automobiles au monde. Hein, donc, c'est quand même pas, on parle pas de petites évolutions pour un pays qui était quand même assez pauvre. Enfin, qui reste d'ailleurs
assez pauvre. Qui reste assez pauvre. Les Mexicains, d'ailleurs, sont très attentifs aux renégociations de l'ALENA car ils savent que c'est l'avenir de leur économie qui est en jeu. Mais ils n'auront pas eu à attendre l'issue de ces négociations, quelles qu'elles soient, pour en subir les conséquences qui sont plutôt négatives, puisqu'elles ont tout d'abord entraîné une dépréciation de leur monnaie, le peso, par rapport au dollar, ce qui affecte directement le niveau de vie de la population. Un reportage Écho d'ici et Écho d'ailleurs, signé Patrick John Buff à Mexico.
En novembre de l'an passé, l'élection de Donald Trump à la présidence des États-Unis avait eu un effet négatif sur la monnaie mexicaine qui s'était fortement dépréciée. Mais alors que le peso avait regagné du terrain, il a baissé à nouveau à partir du mois d'août dernier, pour les raisons qu'explique Ricardo Villalobos, un cambiste qui travaille dans un bureau de change.
Ça a à voir directement avec la pression de la renégociation du traité de libre-échange. Mais il manque encore les rondes de négociation les plus compliquées qui doivent se dérouler prochainement. De toute façon, il y a encore beaucoup d'incertitudes sur la poursuite ou l'abandon du traité. Inévitablement, le peso se voit menacé pour ces raisons-là, parce qu'environ 80% de notre commerce dépend des États-Unis.
Alrededor de un 80% está con Estados Unidos.
Cette chute du peso face au dollar a touché directement les Mexicains, à commencer par ceux qui vendent des produits importés des États-Unis. C'est le cas d'Israël Cortés, propriétaire d'une clinique vétérinaire.
Il y a dans nos locaux un secteur consacré à la vente de produits vétérinaires comme les aliments. La plupart d'entre eux viennent des États-Unis. Bien entendu, leurs prix connaissent des fluctuations. Parfois ils baissent, mais la plupart du temps, ils augmentent. Et malheureusement, ce que l'on voit durant les négociations, c'est que chaque fois qu'il nous serre la ceinture, le peso se dévalorise. Alors les prix augmentent et les ventes diminuent. Et aujourd'hui, le préjudice est bien réel.
Quant aux consommateurs, ils n'auront pas à attendre la fin des négociations sur l'ALENA pour voir diminuer leur pouvoir d'achat, comme le déplore Guillermo Tacuba, un jeune Mexicain de 23 ans.
Avant, ce qu'on achetait le plus fréquemment, c'était les habits et les produits d'utilisation courante. Moi, dans mon cas, j'ai dû vraiment beaucoup me limiter, par exemple pour les habits, car les prix ont augmenté, alors que les salaires, eux, n'augmentent pas.
L'espoir des Mexicains, c'est que ces négociations aboutissent, car ils craignent que le retrait des États-Unis de l'ALENA ait de graves répercussions sur l'économie de leur pays et sur leur vie quotidienne.
Un reportage signé Patrick John Buff à Mexico, dans Écho d'ici, Écho d'ailleurs sur RFI, où nous parlons, vous l'aurez compris, de l'ALENA, l'accord de libre-échange de l'Atlantique Nord, avec deux invités, Rodolphe Desbordes, professeur à Schema Business School, et Sébastien Jean, le directeur du CEPIEN des grands centres de recherche économique français. Sébastien Jean, ce reportage, qu'est-ce qui vous inspire? Pourquoi est-ce que la monnaie mexicaine dégringole comme ça? Tout simplement parce qu'il y a des négociations, des pourparlers entre le gouvernement mexicain et le gouvernement américain et canadien.
Oui, la valeur de la monnaie c'est reflète notamment les anticipations qu'on fait de la richesse future d'une économie, hein, de ses flux de revenus à venir. Et par ces déclarations déstabilisatrices, Donald Trump a provoqué des incertitudes et des craintes par rapport à ces anticipations. On a vu la même chose d'ailleurs pour le Royaume-Uni avec le vote du Brexit. La seule chose qui a réagi immédiatement, c'était le taux de change. Ce qui est ironique dans le cas présent, c'est que c'est une évolution qui ne satisfait personne. Pour les Mexicains, ça vient d'être dit, ça renchérit le prix de leurs importations, ça peut limiter le pouvoir d'achat. Pour les États-Unis, ça aggrave justement le problème que Donald Trump prétendait résoudre, c'est-à-dire le manque de compétitivité, le déficit bilatéral, le manque de compétitivité des Américains. Et même, dans une certaine façon, ça peut avoir un effet négatif sur la valeur de leurs investissements au Mexique, qui plus est. Donc c'est mauvais sur toute la ligne. Pour eux. Donc voilà, ça a cet effet paradoxal c'est notamment lié au fait qu'un accord commercial, c'est aussi et d'abord un cadre stable, coopératif, de confiance et de prévisibilité qui permet de s'organiser pour poser un cadre nouveau pour l'activité économique, un cadre plus efficace si possible.
Rodolphe Desbordes, un ancien président mexicain au début du XXe siècle, Porfirio Diaz, disait « Pauvre Mexique, si loin de Dieu et si près des États-Unis ». Est-ce que cet accord d'association n'a pas encore rapproché le Mexique des États-Unis, accru l'imbrication de leurs économies? Est-ce que ça n'est pas en fait une erreur pour les Mexicains d'avoir tellement interpénétré leur économie avec l'américaine?
Je ne crois pas. Je ne crois pas parce que le Mexique a très souvent été un pays avec beaucoup de possibilités, d'opportunités, mais qui ne se sont pas réalisées. Et en fait, ça explique pourquoi, par exemple, le Mexique a abandonné sa politique de protectionnisme industriel, puis a rejoint à l'époque le GATT, le précurseur de l'OMC, et ensuite a désiré, en fait, faire partie de l'ALENA. Pourquoi ? Un peu comme les pays d'Europe de l'Est ont voulu accéder à l'Union européenne et à l'acquis communautaire, pour le Mexique, c'était en quelque sorte une façon d'importer un bon cadre, les bonnes institutions américaines, et surtout de ne pas pouvoir revenir en arrière, justement en ayant ce traité international qui les empêchait de revenir vers une économie plus protectionniste. Et je crois, Sébastien Jean a raison, la dépréciation, comme on l'a vu avec le Brexit, c'est une perte de confiance dans l'économie mexicaine, par exemple avec la peur de candidats présidentiels nationalistes qui refermeraient le pays. Et les Mexicains, eux, sont pour le libre-échange. Ils savent que ça a un intérêt pour eux.
Alors, on a beaucoup parlé des deux pays, États-Unis et Mexique, mais il y en a un troisième dans cet accord, c'est le Canada, il ne faut pas l'oublier. D'autant plus que chaque année, les entreprises canadiennes exportent pour environ 400 milliards de dollars canadiens de marchandises aux États-Unis. Si on le met en dollars américains, c'est 20% de moins. C'est deux tiers des exportations du Canada. Au total, les échanges entre les deux pays atteignent 800 milliards de dollars canadiens. Deux économies donc très fortement imbriquées. Difficile dans ces conditions d'imaginer que la remise en cause de l'ALENA puisse mettre fin, quoi qu'il arrive, à ces échanges, comme en attestent ces entrepreneurs québécois près de la frontière américaine. C'est un reportage Écho d'ici, Écho d'ailleurs, signé Pascal Guéricola.
Dans cette ébénisterie québécoise, grande comme plusieurs terrains de foot, des ouvriers s'affairent à découper des pièces de bois, puis à les assembler.
C'est un prototype qu'on a été demandé de faire, là. Vraiment conçu pour un emplacement particulier dans le bâtiment, je ne sais pas exactement.
Ici, pas de meubles produits à la chaîne, uniquement du sur-mesure, à partir de plans d'architectes d'intérieur. Bien souvent, les panneaux de bois arrivent des États-Unis pour repartir quelques mois plus tard sous forme de comptoirs, de meubles ou d'encadrement de fenêtres pour des clients américains. Un exemple qui illustre très bien l'intégration entre les économies canadiennes et américaines. À quelques kilomètres de là, l'entreprise Deflex Composite vit aussi au quotidien cette réalité des échanges. Son dirigeant a dû se résoudre à ouvrir une usine dans l'État américain du Massachusetts pour satisfaire ses clients qui vendent des autobus. Des villes comme New York, exige en effet désormais un contenu américain.
Il faut emboîter le pas. Je pense qu'on se doit d'avoir une collaboration quelque part si on veut que notre entreprise maintienne son flot ici au Québec. En mettant un pied de l'autre côté, ça rouvre la porte aussi au marché américain.
Serge Jacques constate que la forte valeur du dollar américain a des conséquences sur son entreprise au Québec.
Aujourd'hui, la pièce américaine est beaucoup plus forte que la nôtre, puis ça cogne moins un petit peu à la porte de nos entreprises pour donner de la business. Je pense que le contenu américain va devenir de plus en plus fort.
Si le Canada exporte beaucoup aux États-Unis, le contraire est vrai également, comme l'explique le professeur Luc Laliberté, spécialiste de ce pays.
On a quand même 30 États aux États-Unis pour qui nous sommes le premier partenaire économique. On parle de millions d'emplois qui sont tributaires liés directement au traité de libre-échange. Très difficile d'imaginer ce traité-là ne pas être remplacé par autre chose. Donc, on en tire profit des deux côtés. Il peut y avoir des irritants. C'est un peu la position de M. Trudeau, d'aller rencontrer des politiciens américains pour dire « Travaillons sur ces irritants, mais convenons du fait que c'est bénéfique, non seulement pour nos producteurs, mais pour nos consommateurs qui reçoivent ces produits-là. »
Beaucoup comptent donc sur les États américains, dont l'économie est très liée à celle du Canada, pour faire pression sur le président américain afin de conserver un accord de libre-échange.
Un reportage signé Pascal Guéricola depuis Montréal. Sébastien Jean, c'est la même chose qu'avec le Mexique où le rapport est très différent puisque le Canada est un pays plus riche. Est-ce qu'il a plus d'arguments que les Mexicains pour s'opposer aux volontés de renégociation de Donald Trump?
Il est effectivement nettement plus riche. Et ce qui en découle, c'est qu'il y a surtout moins de conflit naturel finalement, cette relation. Elle est moins portée à des intérêts divergents parce qu'il y a moins de contraste entre les deux pays. Ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas de tensions, et des tensions, il y en a d'ailleurs depuis très longtemps. Il y a des sujets récurrents de tensions, et en particulier le bois d'œuvre dont vous avez parlé. Le bois d'œuvre, c'est quelque chose, depuis un siècle, il y a des conflits sur, depuis plus d'un siècle, il y a des conflits sur le commerce de bois d'œuvre. Pendant les années 30, il y avait des mesures protectionnistes des États-Unis pour éviter pour limiter les importations depuis le Canada. Et le fait est que il y a des conditions très propices à la production de bois d'œuvre au Canada, et du coup
le bois d'œuvre, c'est le bois qui sert pour l'immobilier,
pour l'immobilier ouais. Beaucoup pour la construction aux États-Unis, et du coup il y a un certain nombre de une production importante aussi aux États-Unis qui a du mal à résister à la pression canadienne, et qui de longue date fait pression sur le gouvernement, sur les autorités, pour obtenir une protection. Et d'ailleurs il y a de nouveau une protection qui a été un droit compensatoire, ça s'appelle techniquement, qui a été décidé par l'administration Trump récemment. C'est le cinquième conflit sur le bois d'œuvre depuis 1980. Donc c'est vraiment quelque chose de récurrent, et d'ailleurs c'est déjà un conflit qui a donné l'objet d'un règlement dans le cadre du chapitre 19 de l'ALENA, c'est-à-dire de ce règlement lié aux instruments de défense commerciale anti-dumping ou droit compensatoire. Donc voilà, il y a ces points de tension spécifiques sur du bois, sur du poisson aussi. Là, on l'a vu récemment sur l'aéronautique, avec Bombardier également. Mais il y a aussi une imbrication très forte des appareils productifs, simplement parce que, étant donné la géographie, simplement, il y a une logique implacable à ce que les États-Unis et le Canada travaillent ensemble. Et donc, par exemple, l'industrie automobile américaine, qui en plus, dont le centre historique Détroit et le
port des Grands Lacs,
et à la frontière canadienne, naturellement, a énormément de sous-traitants canadiens, et elle est très fortement imbriquée autour de la frontière. Et là, s'il y avait une rupture des relations bilatérales, enfin disons une montée des tensions, ça serait très problématique.
Pour les deux, bien sûr.
Un dernier point pour dire que les études économiques ont montré que l'accord bilatéral avec Custa, puis après l'ALENA, a eu un impact très fort sur l'industrie manufacturière canadienne, notamment en augmentant très fortement sa productivité. On a estimé certaines études, les meilleures probablement, estiment le gain à 10%, ce qui est énorme pour un seul accord comme ça.
Rodolphe Desbordes, on parle Mexique, États-Unis, Canada, mais Mexique-Canada, ça existe, cette relation commerciale? Est-ce que dans cet accord tripartite, c'est la juxtaposition de deux accords bilatéraux, ou est-ce qu'il y a vraiment un jeu à trois?
Alors parfois il y a un jeu à deux et parfois un jeu à trois. Par exemple, quand Donald Trump parle
d'abroger peut-être l'ANA, il a en tête plutôt la relation États-Unis-Mexique. Souvent, il ne parle pas plutôt de la relation États-Unis-Canada, qui, sans doute, si l'ANA était abrogée, on reviendrait donc au CUFTA, au Canadian US Free Trade.
Au Canadian c'est US ça. Free Trade, c'est ce que Sébastien Jean évoquait tout à l'heure.
Tout à fait, où beaucoup de choses qui sont dans l'ANA, on le retrouve dans cet accord-là. Alors ça, c'est le jeu à deux. Le jeu à trois, c'est qu'il y a des chaînes de valeur qui ce qu'on dit global, c'est-à-dire on fait un bien intermédiaire quelque part, on l'exporte, on utilise notre produit, qu'on réexporte. Et par exemple, au niveau de l'automobile, on voit que, par exemple, Ford va utiliser des pièces du Mexique, va utiliser des pièces du Canada, peut-être que celles-ci vont voyager entre différents pays et vont se retrouver. Donc, en fin de compte, comme disait Sébastien, c'est en fin de compte, c'est l'économie naturellement, du fait de la géographie, du fait de leur avantage comparatif ou du grand marché, dans des avantages de spécialisation, bénéficient l'un de l'autre, sont très très imbriqués.
Sébastien Jean, on approche de la fin de cette émission. Les négociations sur l'ALENA, elles vont aboutir à quoi? Bon, évidemment, c'est une question difficile, une réponse pas évidente, mais qu'est-ce que vous répondez?
Je reviens à mon constat de départ, c'est-à-dire que Donald Trump, enfin l'administration Trump et Donald Trump notamment, arrive à cette table de négociation comme un joueur de poker qui dit « je vais tout casser », qui bluffe. Énormément, enfin c'est ce qu'on est tenté de croire. Le problème, c'est qu'on l'a pas vu finir de partie pour l'instant, et que on a l'impression très nette que lui-même et son administration sont absolument impréparés, ne sont pas qualifiés pour mener cette négociation, et donc l'avait dit d'ailleurs Paul Krugman au moment de l'élection, on a l'impression d'enfants en train de jouer avec des pistolets chargés, voilà. Et donc il y a énormément d'incertitudes pour cette négociation, alors qu'il y a économiquement, ce serait une aberration de mettre fin à l'ALENA aujourd'hui. Pourquoi je dis ça? Ça veut pas dire nécessairement que tout a été bien dans ce qui a été fait, mais simplement comme je disais tout à l'heure, il y a ce cadre prévisible, du coup qui a réorganiser l'industrie nord-américaine, ça a été 20 ans d'investissement, de restructuration des filières, il y a eu des coûts d'ajustement. Et en effet, mais qu'est-ce qui va se passer si on casse l'accord aujourd'hui? On va avoir d'autres coûts d'ajustement dans l'autre sens. Donc, on va payer deux fois et on n'aura même pas de bénéfice à la fin. Donc, il y a d'ailleurs une résistance massive à ce mouvement. Ça n'a pas de rationalité économique. Ça ne veut pas dire que ça n'arrivera pas.
C'est le mot de la fin. Merci Sébastien Jean. Cette émission est maintenant terminée. Elle a été réalisée et mise en onde par Nicolas Benita. Merci Rodolphe Desbordes. Merci Sébastien Jean de nous avoir éclairé sur les problèmes auxquels fait face cette association. Et je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures économiques.
Écho d'ici, écho d'ailleurs, sur RFI.